Le texte de ce matin est un passage bien connu des évangiles, se trouve en Marc chapitre 8, et c'est le miracle de la multiplication des pains. Marc chapitre 8, je vais lire dans les premiers versets. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était à nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Mais comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, ils furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Ici, le Seigneur Jésus prêche en Galilée et son message est tellement fort que des foules commencent à s'amasser pour l'écouter. Ce n'est pas lui qui les a spécialement invités, ce sont les gens qui ont soif spirituellement, faim et soif spirituellement, et qui sont allés dans ce lieu désert où ils se trouvaient, là où il y avait de la place et de l'espace, pour l'écouter. 4000 personnes, c'est pas évident de parler à 4000 personnes sans micro et sans amplification. Hein. Et Jésus enseignait des choses du royaume, les valeurs du royaume, et il annonçait aussi la bonne nouvelle du salut. Et toutes ces personnes le suivaient là depuis 3 jours sans manger. C'est dire que leur faim spirituelle était plus forte que leur estomac. Je me demande si nous serions capables de nous abstenir 3 jours pour écouter la parole de Dieu. Au bout d'une demi-heure, on dirait « Oh, j'ai l'estomac qui grogne ». Mais ces personnes-là, qui ne devaient pas manger beaucoup d'habitude d'ailleurs, hein, c'était des gens assez pauvres, ils voulaient en savoir plus. Ils voulaient connaître le Seigneur, ils voulaient entendre ce qu'il avait à leur annoncer. Et puis, Jésus qui n'est pas seulement dans le domaine spirituel, Jésus il pense à l'aspect matériel, il dit « mais ces gens n'ont pas mangé, il faut qu'on s'occupe de leur repas ». Mais les disciples disent « Seigneur, c'est bien, mais... » Il y a 4000 personnes là, on est dans un lieu désert. Tu vas trouver où le repas? Hein, il n'y a pas de livreur là qui va venir si on l'appelle au téléphone. Et on peut pas, il n'y a pas d'arbre fruitier, il n'y a rien, c'est désertique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est impossible. Et la première leçon qu'on apprend dans ce miracle, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Ils étaient vraiment devant une situation totalement impossible. On ne peut pas nourrir tant de gens. Même si chacun partage ses miettes de pain qu'il a sur lui, 4000 personnes, vous vous rendez compte, 4000 repas. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que Jésus dit plus tard d'ailleurs en Marc 10, 27. Lorsque quelqu'un lui dit « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Ça, c'est la base de la foi, de croire que tout est possible à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que Dieu va exaucer n'importe quelle prière qui nous passe par la tête. Seigneur, mets une Ferrari dans mon garage quand je rentre. Non. Dieu peut le faire, mais ça ne va pas le faire parce que ça ne va servir à rien pour sa gloire et pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais quand on est dans une situation impossible, Dieu est là et il entre en action. Et même plus c'est impossible, plus on peut compter sur Dieu. Et là, ils se trouvent devant cette foule, ils ne savent pas quoi faire et ils vont vers Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus leur dit, apportez-moi ce que vous avez. Cette idée que rien n'est impossible à Dieu, nous devons la méditer plus souvent. Je pense à la France, hein, où les chrétiens évangéliques sont à peu près 0,2%. Donc 0,2%, c'est une goutte d'eau. Et nous voulons annoncer l'évangile à ce grand pays de 68 millions, je crois, d'habitants. Et beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Beaucoup aussi ont été dégoûtés. Beaucoup sont passés à autre chose. Certains vont dans l'islam, d'autres dans le New Age ou le yoga ou toutes sortes de religions orientales. Et on se trouve face à un pays entier qui a besoin d'entendre. La plupart des gens n'ont jamais entendu l'évangile biblique. Ils ont entendu parler, il faut aimer son prochain, Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Ça, ils en ont entendu parler. Mais qu'on peut être sauvé, réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, ils ne le savent pas. Il n'y a quasiment pas de radio chrétienne. Il y a une radio dite chrétienne à Paris, une seule, où l'évangile n'est pas spécialement annoncé. À la télévision, le dimanche, le culte du dimanche à la télévision, l'évangile n'est pas spécialement annoncé. Dans les journaux, l'évangile n'est pas spécialement annoncé, même au contraire, on va faire des documentaires ou des articles pour dire que la Bible est une légende, que Jésus n'était qu'un gentil rabbin qui a été persécuté. Donc, on n'a aucun moyen en nous-mêmes. On est faible, on est petit, on est peu nombreux, et on a toute une ville, d'abord Paris, et tout un pays devant nous qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Regarde cette foule. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et il nous faut avancer avec cette foi entière dans le Seigneur. Aucun Français n'est impossible. Je crois que c'est l'équipe de France de football qui dit, c'est quoi leur motto? C'est aux Français, rien... Impossible n'est pas français. Impossible, vous avez déjà vu ça? Impossible n'est pas français. C'est-à-dire, les Français peuvent tout faire. Oui, c'est beau ça. Mais ça, c'est la foi en soi-même. Et la foi en soi-même ne va pas très loin. Parce que nous-mêmes, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Et les sportifs français sont là pour nous montrer qu'ils ne gagnent pas à tous les coups. Par contre, impossible n'est pas chrétien. On pourrait le dire. Parce que Dieu, lui, peut tout. Et si vous êtes ce matin dans une situation impossible, vous ne savez plus quoi faire, ou vous avez un défi qui se présente à vous et vous dites, je ne sais pas comment je vais répondre à ce défi, c'est trop grand pour moi. C'est le moment de dire, Seigneur, à toi, rien n'est impossible. Nous avons beaucoup de défis en tant qu'Église, mais vous avez aussi, chacun d'entre vous avait des défis personnels. Mais sachez que le Seigneur va être avec vous. Et mettez votre confiance totale en lui. La deuxième leçon, là, et on la trouve ici au verset 5 de Marc 8. Jésus dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Dieu n'a pas créé des pains et des poissons, là, comme ça. Il a pris des pains existants et des poissons existants et il les a multipliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'a pas créé des poissons, il les a multipliés? Parce que Dieu veut nous utiliser pour accomplir son plan miraculeux. Ici, il a utilisé les pains et les poissons que les chrétiens, que les disciples avaient pour les multiplier. S'il y avait eu zéro pain, zéro poisson, il n'aurait rien pu multiplier parce que zéro fois quelque chose, ça fait toujours zéro. Et la leçon, c'est que il ne s'agit pas simplement de prier, de dire « Seigneur, tombe sur la France et convertis tout le monde », je ne sais pas. Ou « Seigneur, je suis dans une situation impossible maintenant, fais tout bouger et que tout s'ouvre comme ça, miraculeusement, comme la mer Rouge s'est ouverte devant Israël ». Mais rappelez-vous la mer Rouge, comment elle s'est ouverte devant Israël? Moïse a dû taper, pour ouvrir le chemin, et Israël était dans une situation impossible. D'un côté, ils avaient la mer. Ils étaient des centaines de milliers là, hein? Des enfants, des femmes, des adultes. La mer d'un côté, l'armée égyptienne avec ses chars qui leur arrivaient dans le dos. Situation totalement impossible, on ne peut pas s'en sortir. Et Dieu a dit à Moïse, maintenant vous allez traverser cette mer et tu vas taper. Et il a frappé l'eau et la mer s'est ouverte. Et quelque part, Dieu attend toujours qu'on frappe l'eau, c'est-à-dire qu'on témoigne de notre foi. Seigneur, je le crois, parce que quand il a frappé l'eau, il croyait que Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire. Quand Jésus a dit « Combien avez-vous de pain ?», il voulait que les disciples participent au miracle, d'une certaine façon. Il fallait qu'ils apportent leur pain, qu'ils donnent leur pain. Christ peut faire des miracles à travers notre vie, notre foi, mais il faut lui donner le peu qu'on a. Dire « Seigneur, voilà, j'ai pas beaucoup, j'ai très peu de ressources, mais je te les donne. Toi, tu peux les multiplier. » Vous dites « Mais moi, j'ai peu de santé. » Oui, mais si vous donnez le peu de santé que vous avez, le Seigneur peut la multiplier. Seigneur, moi j'ai peu de diplômes. Je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup étudié, tu sais. Je ne sais pas ce que je peux faire dans la vie d'utile. Mais donnez le peu que vous avez et Dieu va multiplier. Dites-moi, j'ai peu d'argent ou j'ai peu de biens. J'aimerais aider les autres, mais je ne sais pas comment faire. Utilisez le peu que vous avez. Donnez-le au Seigneur. Il va le multiplier. Seigneur, j'ai peu de temps. J'ai un travail qui est très prenant. J'ai une famille à m'occuper. J'ai très peu de minutes. Mais donnez vos petites minutes. Et Dieu va les multiplier. Donnez. Et c'est ça la leçon ici. Dieu agit avec ce qu'on lui donne. Nous, on aimerait qu'il fasse tout le travail et qu'on soit dans une chaise, une chaise longue et qu'on le regarde faire. Ça, c'est l'idéal, n'est-ce pas? Même, on aimerait être au ciel déjà et que Dieu s'occupe de la terre et que nous, on n'ait plus rien à faire. Ça, c'est notre côté paresseux un petit peu. Mais si Dieu est entré dans notre vie, c'est pour qu'on soit une bénédiction aux autres. S'il nous laisse sur la terre, c'est pour qu'on soit utile aux autres. Dieu utilise les êtres humains, et en particulier ses disciples, comme on le voit ici. Dans le fameux mariage de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, est-ce que Jésus a créé du vin comme ça? Pfft. Non. Qu'est-ce qu'il a fallu lui apporter? De l'eau, des cruches d'eau. Et il a changé ses cruches d'eau en cruches de vin. Il a changé l'eau en vin. Mais il fallait lui apporter des cruches d'eau. Lorsque Élie est allé se réfugier chez une veuve de Sarepta, cette veuve n'avait plus rien à manger. Elle dit, il me reste un tout petit peu d'huile, d'olive, et c'est tout ce que j'ai. Et comme il y avait la loi de l'hospitalité qui était très forte au Moyen-Orient, elle dit, je vais te donner mon huile qui me reste et je vais mourir. Voilà où elle en était, cette veuve. Et qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Amène tous les vases, les récipients que tu as à la maison. Tous les récipients! Bon, elle dit d'accord, elle amène tous ses récipients, elle dit verse! Et avec la petite fiole d'huile qui est restée, elle a versé. Et elle a versé, elle a versé, elle a versé, elle a versé, et ça ne s'arrêtait plus. Elle a rempli tous ses vases. Mais il a fallu qu'elle donne ses récipients pour que Dieu les remplisse. À la Pentecôte, Jésus avait dit aux disciples, attendez la puissance du Saint-Esprit, hein, et vous serez mes témoins quand vous l'aurez reçu. Et il avait besoin de cœurs réceptifs. Et c'est 120 disciples dans le livre des Actes, hein, qui priaient, qui disaient, Seigneur, nous attendons, nous voulons être les témoins de Jésus-Christ, et pas les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Et nous attendons ta puissance. Et ils ont reçu le Saint-Esprit de tout cœur, et avec cette puissance, ils ont bouleversé le monde. Dieu attend nos cœurs, attend qu'on donne pour multiplier. Une autre leçon de ce passage, c'est que la grâce de Dieu est surabondante. Et au verset 6 du chapitre 8, il dit, « Il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit. » Et l'expression là, dans l'original, ce n'est pas qu'il les a rompus et puis voilà. C'est qu'il rompait le pain continuellement, au fur et à mesure. C'est-à-dire, les disciples avaient des paniers, Jésus a pris les 7 pains et il a rendu grâce au Père, il les a rompus et il a rempli un panier. Ensuite, ils ont amené un deuxième panier, il a rompu le pain et un troisième panier, il a rompu le pain. Et Jésus n'a pas cessé de rompre ce pain et plus, tant qu'il y avait des paniers à remplir, il les a remplis, tant qu'il y avait un besoin, il a rempli ce besoin. La grâce de Dieu est surabondante et la grâce de Dieu répond à nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce n'est pas que Jésus a fait un tas de pain hein, de 3 mètres de haut et un tas de poissons de 3 mètres de haut. Il a rompu au fur et à mesure. C'était pareil avec la manne, encore un miracle dans le désert, hein, dans l'histoire d'Israël. Ils ont traversé un désert pendant des années et tous les matins, il y avait la manne qui tombait, qui était cet aliment riche et nourrissant, et il le ramassait, mais il devait le ramasser chaque matin. Et Dieu avait dit, si vous gardez la manne pour le lendemain, elle va pourrir. Sauf pour le Shabbat. Et c'est pareil pour nous. Tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu va nous donner sa grâce surabondante tous les jours. Comment on a besoin de la grâce de Dieu tous les jours? D'abord parce qu'on fait des péchés. On n'obéit pas toujours au Seigneur, on ne fait pas sa volonté. Et on a besoin de son pardon. Le pardon se trouve auprès de toi, dit la Bible. Et tous les jours, le Seigneur veut nous pardonner, nous purifier par son sang précieux. Tous les jours, on a besoin de sa grâce. Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas vécu comme j'aurais dû. Je n'ai pas été digne de toi. Seigneur, veuille me pardonner. Et nous savons que sa grâce surabonde. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On a besoin de la grâce de Dieu pour vivre dans ce monde qui n'est pas spécialement encourageant avec la foi. Que ce soit au travail, que ce soit dans les transports, on est plutôt découragé. Et le Seigneur veut nous donner sa grâce chaque matin. J'aime les lamentations de Jérémie, hein. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque matin, on peut cueillir, puis ramasser la manne. Il y a même un livre de méditation hein, qui s'appelle « La manne du matin ». Je crois que c'est M. Alexander qui avait écrit ces méditations. Un très bon livre à lire tous les matins. La grâce de Dieu surabonde. Quand ils ont fini, il restait encore des paniers. L'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient, le 7, la perfection, la main de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas juste ce qu'il nous faut, elle est plus que ce qu'il nous faut. Elle nous donne plus, toujours. Le Seigneur, c'est Monsieur Plus. Hein? Dieu ne compte pas en disant « Ah, tu as besoin de 25 grâces aujourd'hui, je vais t'en donner 25 et pas une de plus. » Dieu est généreux, abondant. J'ai appris qu'il y avait sur la terre 250 000 espèces végétales qu'on peut cultiver, c'est-à-dire pour se nourrir. Ce n'est pas 250 000 épis de blé, hein, c'est 250 000 espèces différentes qu'on peut cultiver pour se nourrir, sans parler des herbes qui ne servent à rien. C'est l'abondance de Dieu. Une des dernières leçons de ce passage, c'est que les hommes ont besoin de nourriture spirituelle. Tous les jours, on a besoin de manger, parce que notre corps le réclame, et ça fait partie de la vie, c'est notre carburant. Mais le chrétien a besoin de nourriture spirituelle. Ici, on ne peut s'empêcher de penser que Jésus est le pain de vie. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Et notre nourriture, c'est le Seigneur aussi. C'est sa parole. C'est lui. C'est la communion avec Dieu. Ça, c'est une nourriture pour l'âme. Et il y a des chrétiens qui se mettent dans des situations compliquées, qui se mettent dans des situations inextricables parfois, ou qui tombent dans des péchés parce que petit à petit, ils ont perdu le nord. Ils n'ont pas gardé la boussole de la Bible. Et ils se sont égarés loin du nord et ils se retrouvent complètement perdus là où ils sont. Ils n'ont plus la sagesse pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ils n'ont plus la force spirituelle pour dire non au mal. Et ils sont vraiment errants. Ils sont des chrétiens en détresse. Comme Jacques le dit, hein, quelqu'un qui manque de foi, il est comme un morceau de bois hein, qui est au gré des flots, qui va à droite, à gauche hein, et qui s'échoue finalement sur les rochers. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, ballottés par la vie, parce qu'ils n'ont pas pris le soin de se nourrir spirituellement. La nourriture spirituelle, le temps qu'on passe avec Dieu et avec sa parole, c'est ce qui nous permet de garder le cap. C'est ce qui nous donne la force spirituelle tous les jours. Ça nous donne la sagesse, pas simplement l'intelligence intellectuelle. Ça nous donne la sagesse. Quand, ça me fait penser à Jonathan, le fils de Saül. L'armée du roi Saül poursuivait leurs ennemis depuis des jours. Et Saül, dans un excès de zèle, pardon, a dit « On ne mangera pas jusqu'à ce qu'on ait battu tous les ennemis. » Et son armée était épuisée. Il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et son fils Jonathan, qui faisait partie des soldats, à un moment, il a vu du miel qui coulait hein, d'un arbre, parce qu'il y avait un essaim d'abeilles là. Et il a pris un peu de miel, et la Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. D'un seul coup, le fait de manger un peu de sucre, ça lui a redonné de la vigueur, et ses yeux s'ouvrirent. Et vraiment, il y a des chrétiens comme ça, qui sont affamés. Le jeûne prolongé est dangereux, évidemment. Les savants, les médecins ont découvert que ça crée les fameux corps cétoniques. C'est un poison. Le corps s'empoisonne tout seul, hein, puisqu'il va puiser dans des ressources qui sont mauvaises pour la santé et il va créer un empoisonnement à force de ne pas manger. Et un chrétien comme ça, il est en danger spirituel. Il faut tous les jours passer du temps avec le Seigneur, s'approcher de lui. Et le Seigneur veut multiplier le pain et les poissons, il veut multiplier la nourriture. On ne peut pas dire que l'on manque de nourriture spirituelle. D'abord, on a la Bible. Ça, c'est merveilleux d'avoir la Bible et de pouvoir la voir librement. On a plusieurs traductions disponibles. Il y a des bons livres chrétiens qui peuvent nous encourager aussi. Il y a des bons livres de méditation quotidienne tous les matins. On peut écouter un message biblique audio, on peut écouter la Bible en audio, MP3. Il y a plein de moyens, mais surtout, on peut prendre le temps, il faut prendre le temps de s'approcher de Dieu. Parce qu'après cela, le Seigneur nous appelle à nous occuper de la foule qui n'a pas de nourriture spirituelle. Quand j'étais athée, je n'avais aucune nourriture spirituelle. Donc mon âme se nourrissait de quoi ? Ben de choses charnelles. Et ça me laissait vide. J'étais toujours vide, alors je voulais plus. Alors j'essayais de lire, j'ai commencé à lire des philosophes. Alors, des fois, les philosophes, même souvent, ils parlent de Dieu et des choses comme ça. Alors là, il y avait un écho en moi, mais comme j'étais athée, je disais, ah ben non, non, pas bon ça. Et puis, au fur et à mesure, je me disais, mais quand même, ceux qui parlent de Dieu, c'est les plus intéressants. Et puis j'allais dans la poésie, mais la poésie, ça me déprimait un peu. Après, c'était la musique. Alors, je m'enfuyais dans la musique, mais ça ne remplissait pas mon âme. Après, je suis allé dans la folie, les boîtes de nuit, l'alcool, etc. Alors là, c'est encore pire. Quand vous tombez là-dedans, c'est le vide absolu. Il n'y a qu'une seule chose qui remplit le cœur, hein, c'est Dieu, qui remplit notre esprit. Et il y a des millions de gens autour de nous qui n'ont aucune nourriture spirituelle. Et Jésus nous dit, il faut aller les nourrir. Et nous, on dit, Seigneur, c'est pas possible. Dans la rue, je croise des milliers de gens chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tous les arrêter un par un. Et là, on a besoin de sa grâce et de sa puissance, de son miracle. C'est un vrai miracle. Hein, nourrir spirituellement la France. Leur apporter l'évangile. Leur apporter la bonne nouvelle. C'est bon d'avoir toujours un traité sur soi, un Nouveau Testament ou un évangile. Parce qu'on croise des gens qui en ont besoin. Il y a des patients qui ont besoin, des grands besoins spirituels. Ils vont voir le médecin, mais en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est d'un traitement pour leur âme. Mais comme il n'y a personne qui va s'occuper de leur âme, ils vont aller chez un médecin. Et puis il y a des médecins qui ont besoin de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'ils sont médecins qu'ils n'ont pas besoin de l'évangile. Ou des grands docteurs, ou des grands hommes politiques, ou des grands acteurs, ou des gens très riches. Ils ont d'autant plus besoin souvent de l'évangile. Et c'est notre responsabilité de disciples d'aller partager cette bonne nouvelle. Le Seigneur fera le miracle après. Nous, on n'a qu'à donner notre peu. Notre petit temps, notre petite force, notre petite santé, notre petite intelligence, notre petit zèle. Tout ce qu'on a, mais on le place dans le Seigneur. C'est comme un investissement qui rapporte à 200%. Hein. Vous placez votre temps dans le royaume de Dieu, et bien cet investissement, ça va rapporter beaucoup, spirituellement parlant, évidemment. Mais nous, dans quoi est-ce qu'on investit notre temps ? Est-ce qu'on est conscient de la faim spirituelle des gens ? On dit, mais ils ne veulent rien savoir, ils sont indifférents. Mais il y a un moment, quand vous ne mangez plus, vous n'avez plus faim. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il paraît que quand on fait un jeûne prolongé, je ne sais pas au bout de combien de jours, si c'est 5 ou 3 jours, il y a une crise vraiment où on pense qu'on va, je sais pas, on va mourir, où on n'en peut plus. Et puis quand on a passé cette crise, on a quasiment plus faim. Et je pense que spirituellement, il y a quelque chose de similaire. C'est que les gens ont si peu de nourriture spirituelle en France qu'ils n'ont plus faim. Mais que si nous, on leur donne faim. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça donne faim. Hein. Et M. Somerville, n'écoutez pas ce passage. Vous n'avez pas le droit au sel. Mais le sel, ça donne du goût à la vie et aux aliments, ça donne du goût. Et nous sommes le sel, dit Jésus. On doit donner faim et soif aux gens qui nous entourent, en leur montrant combien l'amour de Dieu comble nos cœurs, combien nous avons une espérance vivante, une sagesse, une joie. Que le Seigneur vous bénisse tous les jours dans votre vie, dans vos situations impossibles. Rappelez-vous, à Dieu, rien n'est impossible. Amen. On va chanter un cantique d'appel.